On va continuer l'étude de Luc. Ce matin, on est dans Luc 11, à partir du verset 29. On va lire ensemble. Donc le verset 29. « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la clarté. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est illuminé, mais s'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait pas fait les ablutions avec le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt l'aumône du fond du cœur et tout sera pur pour vous. » Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit « Maître, en disant cela, tu nous outrages nous aussi. » Et Jésus répondit « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même du bout du doigt. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc témoins et vous approuvez les œuvres de vos pères car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront et en persécuteront afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de sujets, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs, pour comprendre ta parole, pour comprendre ce que ce passage veut dire et ce que tu as à nous dire à travers ce passage, Seigneur. Parle-nous par ton esprit, rends-nous sensibles à ton esprit et aide-nous à être ouverts et prêts à réagir en conséquence. Sois glorifié ce matin, en ton nom nous prions. Amen. Vous vous souvenez d'où on en était il y a 2 semaines ? Oui, non ? Dans le passage qui est juste avant, Jésus fait des miracles et on lui dit que c'est par Satan qu'il fait ces choses. Et puis là, ça continue, c'est quelque chose qui revient tout le temps avec les pharisiens, avec les gens qui venaient à lui. Mais il y a ce retour sans cesse de gens qui lui demandent des miracles, des signes pour prouver encore un peu plus qu'il est, qu'il dit être. Il y a une demande continue. Est-ce que Jésus a fait des miracles et des signes? Non, il a rien fait, non? Il a guéri personne, quand on lit les évangiles, il n'y a rien qui vous semble bizarre, quoi. Normal, quoi. On l'a dit, on le redit ce matin, mais les signes ne sont pas quelque chose qui nous permet vraiment de changer. Les miracles extérieurs, les choses extérieures, c'est pas vraiment quelque chose qui nous change. On aimerait bien que ce soit aussi facile. On va regarder ensemble, c'est plutôt un choix. La foi, le fait de croire en Jésus, c'est une décision que nous prenons. Il suffit de regarder Satan. Satan, il sait exactement qui est Jésus. Et pourtant, il a fait un choix qui était de se rebeller. Adam savait, il marchait avec Dieu dans le jardin. Il n'y avait pas de « peut-être que Dieu existe, est-ce que peut-être d'où est-ce qu'on vient ?» Non, il connaissait. Et pourtant, il a fait un choix. Et là, Jésus va rentrer dans le tas, va tirer à vue. Et il commence avec cette idée de signe. Et il leur dit que c'est une génération mauvaise parce qu'ils veulent un signe. Ils utilisent ça comme excuse. Ils veulent juste de l'excitation ou de la folie pour le plaisir, mais ils veulent pas vraiment changer. Ils veulent pas vraiment écouter ce que Dieu a à leur dire. On avait regardé dans le passage avant qu'il était plutôt gentil, qu'il essaie de raisonner avec eux, de leur dire mais écoutez, ce que vous êtes en train de dire, ça a pas vraiment de, il y a des problèmes de logique simple. Essayons de raisonner correctement pour essayer de vous faire voir les choses comme il faut. Et maintenant, il va un petit peu plus les piquer au vif, avec des reproches. Et il leur parle, il leur dit, vous voulez un signe, et la seule chose que je vais vous donner, c'est le signe de Jonas. Qui connaît l'histoire de Jonas, là? Vous êtes bien, c'est facile, c'est acquis. Je vérifie. J'essaie d'expliquer le texte. Il faut que on soit sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on comprend. Dans Matthieu 12, 40, il y a un petit détail en plus par rapport à ce qu'on a ici dans Luc. Il dit, en effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Donc il leur dit, je vais me laisser enterrer pendant 3 jours et ce sera un signe. c'est pas vraiment le show qu'ils attendaient. C'est pas vraiment quelque chose de spectaculaire. La résurrection, évidemment, si, mais quand on connaît la suite de l'histoire, on se dit que c'est vraiment dommage et qu'ils ont vraiment loupé. Là, il leur dit, vous attendez un signe, soyez prêts. Je vais faire quelque chose d'incroyable, je vais faire quelque chose comme Jonas. L'histoire de Jonas, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Et on sait que les pharisiens, les scribes et la plupart du peuple juif le ratent. Ce signe. Et malheureusement pour eux, du coup, ils ont loupé Jésus. Les apôtres, la suite, notamment Paul et les autres écrits de l'Évangile dans le Nouveau Testament, nous disent que les signes et les miracles qu'a fait Jésus pendant sa vie, c'est pas forcément, c'était des choses qui montraient sa puissance et son autorité, mais c'est quoi qui le signe qui fait vraiment que Jésus est Dieu incarné, le Fils de Dieu, quelqu'un qui est au-delà de tous ceux qui étaient venus avant lui, les prophètes, les gens et tous ceux après. Romains 1:4 nous dit qu'il est institué Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté du fait de sa résurrection d'entre les morts. C'est sa résurrection, c'est ce signe, c'est ce fait d'être enterré 3 jours, d'être mort et ensuite d'être ressuscité qui est la preuve de ce qu'il disait être. Les scribes et les pharisiens, ils voulaient on ne sait pas exactement les signes qu'ils attendaient, mais ils ont loupé le signe. Et c'est le message des apôtres qui suivent aussi. Si on regarde dans 1 Corinthiens 15, Paul dit « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le troisième jour selon les Écritures. » C'est exactement ce que Jésus leur dit qu'il va faire. C'est d'autant plus triste. On se dit, ils discutaient, ils leur disaient « Soyez prêts, je vais le faire. Vous voulez un signe ?» C'est fou parce qu'ils demandent un signe et il leur dit « D'accord, je vais vous en donner un. » Et puis il leur donne un signe qui montre qu'il est le Fils de Dieu incarné et ils ne le voyaient pas. Ils ne voulaient pas le voir. Et c'est intéressant aussi parce que c'est Jésus lui-même le signe. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas autre chose, c'est vraiment lui. Il est vraiment le message de Dieu. C'est pas des paroles ou autre chose, c'est Jésus lui-même qui est le signe. Il continue, il leur dit « La reine du Sud se réveillera. » Qui c'est la reine du Sud? Vous connaissez la reine de Saba? C'est une histoire dans 1 Roi 10 ou dans 2 Chroniques, vous pouvez aller regarder. C'était une reine d'un territoire lointain qui était un peu à l'extrémité du monde connu de l'époque. Donc qui fait un voyage, c'est comme si elle venait depuis la Chine ou j'en sais rien, à pied. Parce qu'elle a entendu parler de Salomon, de cet homme qui était... soi-disant le plus sage, le plus grand, le plus intelligent des hommes. Et elle avait envie de voir ça, elle avait envie de se dire si c'est vrai, peut-être que je peux apprendre quelque chose. Elle a cette envie d'entendre, d'écouter. Et dans ses anciens passages, elle vient, elle fait ce long voyage, et quand elle voit, elle entend Salomon, et elle voit les richesses et le royaume d'Israël, elle loue le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, elle dit, il est grand, il est... Jésus, lui, est plus grand que tout ça. Il est plus grand que Salomon. Salomon ne pouvait dire que, la sagesse dans les proverbes, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Paul, lui, dans Colossiens 2, il dit que Jésus... En Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui. La Bible nous parle de la sagesse comme étant incarnée en Jésus. Tous les hommes sages de la Bible auraient voulu voir Jésus, auraient voulu pouvoir parler avec lui, auraient voulu pouvoir être avec lui, l'écouter. Et malheureusement... Tout ça fait que ça sera une condamnation plus sévère pour Israël. Les hommes de Ninive, ils ont écouté Jonas, ils se sont tournés de leur péché, ils ont écouté un messager de Dieu. La reine de Saba aussi, elle est venue, elle a écouté Salomon, qui était en quelque sorte le messager de Dieu à cette époque. Les Juifs de ce moment-là avaient Dieu incarné et ils n'ont pas écouté. Gardez ça en tête après avec l'histoire des prophètes et des tombeaux des prophètes et le fait que Jésus dit vous attirez sur vous la condamnation à cause de tout ce qui s'est passé depuis Abel jusqu'à Zacharie et plus loin. Et on sait la suite de l'histoire avec l'Église, le début de l'Église et comment ils ont rejeté tout ce que Dieu leur envoyait. Jésus, en plus, ici, il se sert d'une petite pique supplémentaire que nous, on loupe en passant, mais c'est que les hommes de Ninive et la reine de Saba, c'était même pas des Juifs. On sait que les Juifs se considéraient comme le peuple choisi, les heureux élus du monde, que Dieu les avait choisis et qu'eux, ils étaient différents de tous les autres. Et là, Jésus dit, même des païens qui sont venus de la... eux, à la fin, ils viendront et ils vous condamneront. Vous qui pensez être les bons, qui pensez avoir le privilège, vous avez rien compris. Dans la suite de Luc, dans le chapitre 12, verset 48, Jésus dit « À quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. » Et donc on regarde ces pharisiens, ces scribes, ces juifs de l'époque, et on se dit « Mais quel gâchis !» Et on se dit « Mais ils ont loupé. » Et on se dit « Mais vraiment, on peut ressentir quand on passe du temps dans ce texte, malheur à eux, quoi. » On se dit « Mais ils vont vraiment prendre cher. » Et oui, mais attention à nous. Quand on regarde ce texte et quand on voit comment Dieu leur disait « Vous avez une responsabilité et vous avez un privilège », qu'en est-il pour nous ? Nous, on a le Saint-Esprit qui a été envoyé après la mort et la résurrection de Jésus pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. On a la Bible. On peut ouvrir la Bible chez nous tout le temps. On a plein de ressources pour lire. On se rend pas compte, en recherchant un petit peu, si jamais vous avez du temps à tuer, entre guillemets, regardez un petit peu l'histoire de comment la Bible a été traduite. Il y a plein de gens qui ont laissé leur vie pour que nous, on puisse avoir la Bible. Ils sont morts, martyrs, exécutés par des gens parce qu'ils cherchaient à conserver la Bible, parce qu'ils cherchaient à la traduire pour les hommes qui ne comprenaient pas le grec, l'hébreu, le latin, etc. Il y a plein de gens qui ont donné leur vie pour que nous, on puisse avoir ce privilège. On a la liberté. On se laisse reprendre quand on entend les récits des chrétiens persécutés, c'est un privilège pour nous. On a aussi l'histoire de l'Église. On a l'Église qui préexiste. On a les enseignements. On a des exemples. On voit les choses bien, les choses pas bien. On voit les erreurs. Il y a 2000 ans d'histoire d'Église sur lequel on peut aller s'appuyer. Attention à nous. Comme les pharisiens, attention à nous que nous ne soyons pas des gens qui, à la fin, nous retrouvions avec les hommes de Ninive ou la reine de Saba qui viennent nous dire « Vous, vous aviez encore plus et vous n'avez rien fait. » Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la clarté. Vous pensez quoi à propos de la lampe ? C'est qui la lampe ? C'est quoi la lampe ? Moi, en arrivant sur ce passage, je crois qu'on est influencé par le sermon sur la montagne et les béatitudes et l'idée que quand on a la foi, on doit le montrer, on ne doit pas cacher notre foi, on doit le montrer. Mais ici, dans le contexte, dans la suite, je pense que l'idée, c'est que Jésus est la lampe. C'est Jésus le chandelier, c'est lui qui brille. Et ici, l'idée, la suite de l'idée, pour lire un peu, des fois on lit la Bible et on prend des petits passages et c'est bon d'essayer de trouver une suite, une espèce d'idée. Et pour moi, la suite de l'idée, la manière de lire ici, c'est de se dire que Jésus, il leur dit, mais ici, il y a plus que Salomon, il y a plus que Jonas. Et pourtant, vous voyez rien. Il y a un problème. Et il dit, pourtant, la lumière est là. On l'a pas cachée, on l'a pas mise derrière, on l'a pas, elle est là. Elle brille. Jean 3, 19. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 8, 12. Jésus leur dit encore, c'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière. Et il est en train de leur dire, le problème ici, c'est pas qu'on est dans le noir, c'est pas qu'il n'y a pas de lumière, c'est que vos yeux ne marchent pas. Vous êtes face à une étoile brillante, là. Vous avez déjà été face à des lampes très, très brillantes, là. C'est limite, même en fermant les yeux, on voit quelque chose. Jésus leur dit, vous voyez rien, c'est pas parce qu'il n'y a pas de la lumière. Je suis là, je suis la lumière du monde. Ensuite, il continue en disant, l'œil, la lampe du corps, et il va leur expliquer l'idée qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre, à être sensibles à ce que Dieu leur dit. Et en fait, c'est le cœur, l'œil de notre âme, en quelque sorte. L'œil nous permet de voir la lumière, c'est notre organe de perception lumineuse, et notre cœur, c'est ce qui nous permet de comprendre et d'entendre et de sentir la vérité de Dieu, la vérité de ce que Jésus nous dit. Et ici, la manière dont c'est expliqué, on se dit c'est un petit peu bizarre. L'œil et la lampe du corps, si ça va bien, alors il y a de la lumière dedans, et on se dit mais il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas vraiment de lumière dedans. Enfin, c'est pas... Mais en fait, il y a cette idée que on peut être là en pleine lumière si nos yeux ne marchent pas, si on est aveugle, c'est comme si on était dans le noir. Pour tout le reste du corps, c'est comme s'il n'y avait pas de lumière. Nos mains, la lumière ne sert à rien si nos yeux ne marchent pas. D'une certaine manière, nos yeux permettent à nos mains de voir, à nos pieds de savoir où se mettre. On peut pas faire sans. Physiquement, on peut faire sans, on peut vivre, on peut. Mais notre vie s'en trouve très limitée. C'est intéressant aussi de se dire, est-ce que si on a quelqu'un d'aveugle et qu'on lui met une lumière très forte devant les yeux, est-ce qu'il va se mettre à voir? Non. Il faut qu'il y ait un changement intérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans le... Il faut qu'il y ait quelque chose qui... Presque la nature, il y a quelque chose dedans qui doit changer. On a besoin que Dieu ouvre nos yeux spirituels. On a besoin de le prier pour qu'il garde nos cœurs attentifs, prêts à entendre de lui. On peut reprendre là le verset dans Jean 8, le verset 12. Jésus leur dit encore, c'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si on regarde dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3, il dit, si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. En effet, ce n'est pas nous-mêmes, sur nous-mêmes que porte notre proclamation, nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes vos esclaves à cause de Jésus, car le Dieu qui a dit du sein des ténèbres brillera la lumière a brillé dans nos cœurs, pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. On peut voir aussi dans Éphésiens 5, à partir du verset 8, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur, et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. » En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler, mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. On doit faire attention à nos cœurs. On doit faire attention à ce que nous restons dans un état dans lequel nous pouvons recevoir de la part de Dieu. C'est ici dans le verset, alors c'est où? C'est verset 35. Il dit, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. » Prends garde. Dans d'autres traductions, Si vous regardez dans d'autres traductions en français, il dit « fais donc attention » ou « examine donc ». C'est notre responsabilité. Il nous dit « faites attention à votre cœur, faites attention à comment vous recevez de la part de Dieu, soyez sensibles ». Qu'est-ce qui peut arriver à nos cœurs ? Il y a trois choses qui moi, me sont venues à l'esprit. On peut avoir des cœurs durs, un peu comme la corne qu'on peut avoir sur les mains ou sur les pieds quand on fait certaines choses. C'est quand on sait que quelque chose est mauvais et qu'on le fait, que c'est un péché, que Dieu ne veut pas qu'on le fasse, qu'on le fait quand même, on décide de le faire et on devient un peu moins sensible. Et la prochaine fois, on le refait et il y a un endurcissement comme ça. Et on ne sent plus cette pique, cette chose dans notre conscience qui nous dit « attention, c'est pas bon ». On l'éteint, on l'écarte, notre cœur s'endurcit. On peut devenir insensible. C'est être blasé. C'est lire combien de fois ça fait que vous êtes venu à l'église et que vous avez entendu parler sur un texte comme ça? Ouais, c'est bon. Ok. On a déjà entendu tout ça. Est-ce qu'on est insensible? Est-ce qu'on est blasé? Puis un dernier point, je pense qu'on peut être simplement rebelle, que on sait, Dieu nous dit quelque chose et on dit « j'ai pas envie ». C'est notre nature, une nature de péché. Et l'exemple des scribes et des pharisiens devrait nous mettre en garde parce que eux se trompaient. On peut se leurrer et penser qu'on est dans la lumière, penser qu'on est sensible, penser qu'on entend, penser qu'on est bien. On doit s'examiner, on doit prier Dieu. Dieu, montre-moi. S'il y a des psaumes, si vous avez envie de lire un psaume, psaume 51, sur « Donne-moi un cœur nouveau, cherche en moi, montre-moi les choses. » David priait. Il disait « Mais peut-être que moi-même, je ne vois pas. Montre-moi. » On a une responsabilité. Il nous demande de faire quelque chose. Dans Jean 12, verset 35, Jésus leur dit « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière pour devenir fils de la lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Malgré tous les signes qu'il avait produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui, de sorte que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe qui a dit « Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire et qui le bras du Seigneur a-t-il révélé ? S'ils ne pouvaient pas croire, c'est qu'Ésaïe a encore dit « Il a rendu leurs yeux aveugles et leur cœur obtus pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur et qu'ils ne fassent pas demi-tour. Je les aurai guéris. » C'est ce qu'a dit Ésaïe parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Faisons attention, soyons sensibles. Verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Est-ce que vous pensez que ce pharisien, il a peut-être regretté son invité d'avoir invité Jésus ? Quand on voit le texte qui suit. On peut lire dans Marc 7, si vous voulez, pour avoir un passage parallèle et pour voir un petit peu d'autres choses. À partir du verset 2, dans Marc 7, il voit quelques-uns de ses disciples manger avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains parce qu'ils sont attachés à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les ablutions rituelles. Ils sont encore attachés à beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le bain rituel des coupes, des cruches, des vases de bronze et des sièges. Les pharisiens et les scribes lui demandent « Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens ?» Il leur dit « Ésaïe a bien parlé en prophète sur vous, hypocrites, Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des humains. Il leur disait, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère ce que j'aurais pu te donner pour t'assister et corban, c'est-à-dire un présent sacré, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez transmise et vous faites bien d'autres choses semblables. On va regarder un petit peu les pharisiens et les scribes, donc. On voit Jésus qui rentre dans le texte dans Luc, hein. Dans Marc, c'est un texte parallèle. C'est très révélateur de voir que les textes se ressemblent, que d'autres moments, dans d'autres situations, Jésus a dû dire quasiment la même chose aux pharisiens et aux scribes. C'est pas un incident isolé. Le pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Et lui, il rentre et il se met à table et il met les pieds dans le plat. Il rentre et il y va direct. Il sait exactement ce qu'ils pensent, il sait exactement ce qu'ils attendent, il sait qu'ils cherchent à l'accuser, il sait que comment ils comprennent les traditions, comment ils comprennent la parole de Dieu, il les provoque, il fait quelque chose pour tout de suite y aller. Les scribes et les pharisiens, on en a déjà parlé. Si vous avez été là à l'église depuis un petit peu de temps, vous savez un petit peu ce qu'ils faisaient, la manière dont ils avaient de se conduire, les règles qu'ils instituaient, qu'ils mettaient. À la fois, ils rendaient tout encore plus compliqué que je sais pas si vous avez déjà lu dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, dans... Est-ce que vous avez déjà lu les listes de commandements, les prescriptions que Dieu a données au peuple d'Israël? Moi, ça me semble déjà pas mal. Ça me semble déjà assez compliqué. Ça me semble déjà assez... Il faut déjà arriver à l'assimiler, à le digérer. Et les pharisiens et les scribes, ils arrivaient à en mettre encore plus dessus. Le se laver les mains là, il prenait, alors il y avait un truc très précis au niveau de combien d'eau il pouvait utiliser, pas moins, pas plus, sinon c'était un péché, et il devait se laver, alors il se versait l'eau en partant du bout des doigts jusqu'à remonter, après il devait se laver l'intérieur de la main avec le dos de l'autre main, comme ça, et après il lavait l'autre main en remontant des doigts jusqu'à la... Et après, il reversait en descendant du poignet vers l'extérieur. Et s'il se trompait, il fallait qu'il recommence. Et les plus sages et les plus fiers d'entre eux le faisaient entre chaque petite partie du repas. Et c'était pas seulement quelque chose où du coup, c'était pas simplement qu'il disait « Bon, bah, c'est ça la règle, il faut que vous le fassiez, etc. » Mais c'était qu'il... Il se considérait du coup comme saint et comme tous les autres pécheurs et mauvais, et ils avaient une fierté qui venait de cela. La liste des règles, alors si vous cherchez un petit peu dans le détail, ils disent qu'il y avait à peu près 6000 règles par les scribes et les pharisiens en plus de tout ce qu'il y avait dans la Bible. Et il y avait plein de manières, je vous passe les détails, mais si jamais vous êtes intéressé, là aussi, vous pouvez aller le rechercher, les listes. Ils avaient même la fierté de dire que les règles et les traditions qu'eux, ils amenaient étaient plus importantes que la parole même de Dieu. Ils considéraient que ça avait plus de valeur que la parole même. Ils ont plein de choses qui vont pas, et Jésus va les reprendre. Verset 39, il leur dit, vous pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt l'aumône du fond du cœur et tout sera pur pour vous. Pour eux, l'extérieur était plus important que l'intérieur. L'apparence était plus important que l'être. Jésus, dans ses interactions, il leur dit pas forcément que c'est mauvais. Il leur dit pas que les choses en elles-mêmes qu'ils font sont mauvaises, mais il leur dit, si vous faisiez autant attention à l'état de votre cœur qu'à l'état de vos doigts entre chaque partie du repas, vous seriez en bien meilleur état. Et il dit, vous êtes fous. Si vous pensez que parce que votre extérieur est propre, tout est bon, tout est pur dans vos vies, vous vous trompez. Dans la suite du texte, dans Marc, de ce qu'on a lu juste avant, à partir du verset 14, il leur dit, il appela encore la foule et se mit à dire, écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'être humain ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux latrines. Ainsi, il purifiait tous les aliments. Et il disait, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Car c'est du dedans, du cœur des gens, que sortent les raisonnements mauvais, inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. Pour purifier l'extérieur proprement, pour être vraiment pur en tant qu'homme, il faut nettoyer l'intérieur. Ils avaient des mains qui étaient propres et qui étaient en contradiction avec des cœurs sales. Et là, on pourrait se dire, bon ben, comment on nettoie l'intérieur? Et c'est en demandant à Jésus de nous changer, de nous purifier, de venir en nous et de nettoyer. C'est cette dépendance sur Jésus, on ne peut pas le faire nous. On a toujours cette tendance en tant qu'homme, comme les scribes, à se dire que si nous, on fait des actions, on fait les bonnes choses, si on se lave les mains, si on vient à l'église habillé comme il faut, si on donne juste la dîme, on va le voir après, alors ça va. Et on le sait, si vous êtes ici depuis, si vous venez à l'église, si vous avez déjà été à l'église, vous savez que même les plus religieux des hommes, il y a un problème dans le cœur, que nous sommes tous perdus devant Dieu, que nous sommes tous corrompus, que nous avons tous besoin qu'il vienne en nous et qu'il nous purifie, que c'est pas en se lavant correctement les mains. Puis il leur dit, donnez plutôt l'aumône du fond du cœur. Dans d'autres traductions, il dit, donnez plutôt par des actes de compassion ce qui est dedans, et tout sera pur pour vous. Il y a l'idée de donner son corps, donner sa vie, donner son cœur comme une offrande à Jésus, à Dieu. Dans Romains, notamment, on parle du fait qu'on doit se livrer à Dieu comme des vivants revenus de la mort. On doit offrir à Dieu nos membres comme armes pour la justice, dans Romains 6, 13. Ou dans Romains 12, Paul leur dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Les scribes étaient aussi de bons donneurs de dîmes. Il y a plein d'églises qui auraient été contentes de les avoir, ça fait des ressources en plus. Et là, ce que leur dit Jésus, c'est qu'il leur dit, vous êtes tellement bon donneur de dîmes que quand vous allez à la campagne ramasser vous allez et vous ramassez du thym par terre pour vous faire un thé, vous pesez 10% proprement que vous allez ensuite garder pour l'église ou pour le temple, pour Dieu. Vous faites tellement attention, vous pointillez, vous êtes, mais vous faites pas le reste. il leur dit, c'est pas que c'est mauvais d'être de bon donneur de dîmes. Il leur dit, oui, mais vous oubliez le reste et le plus important, vous vous attardez sur les détails et pas sur les choses importantes. Ici, on peut faire un parallèle intéressant quand il va plus loin leur dire qu'il rejette les prophètes, qu'il n'accepte pas. Dans Michée 6, à partir du verset 6, il leur dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, m'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dans Michée, le prophète, il dit, c'est pas les sacrifices, c'est pas de donner des béliers par milliers, c'est de faire ce que Dieu demande, de pratiquer le droit, d'aimer la loyauté et de marcher humblement avec Dieu. On pourrait reprendre dans quasiment tous les prophètes de l'Ancien Testament, ce thème revient. Ils pensaient que parce qu'ils obéissaient strictement aux règles sur les sacrifices et les choses, qu'ils avaient tout compris. Dans 1 Jean 3, verset 17, on l'a lu il y a quelques semaines. « Mais si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » Il leur dit aussi qu'ils aiment bien les chaises visibles, les places. Ils aiment bien être là, ils seraient assis là à hocher de la tête quand on dirait quelque chose de bien, habillé comme il faut. C'était la réputation. Ils étaient plus intéressés par ce que les gens pensaient d'eux. Ils n'étaient pas intéressés dans leur caractère, dans ce que Dieu sait qu'ils étaient. Est-ce que nous sommes comme ça ? Est-ce qu'on a plus peur de ce que les gens pensent ? C'est plus notre réputation qui compte ? Ou est-ce qu'on est plus intéressé par notre caractère, notre vraie nature devant Dieu ? Il leur parle, il leur dit, quel malheur pour vous, vous êtes comme les tombeaux que rien ne signale. Si quelqu'un à l'époque marchait sur ou était proche, trop proche d'un tombeau, on le considérait impur pendant une semaine. Si ça vous intéresse, c'est dans Nombre 19, même si on ne savait pas. Et donc les Juifs, tous les ans, ils blanchissaient, ils peignaient en blanc, attention, ça c'est une tombe, pour que tout le monde soit sûr qu'il ne marche pas dessus, qu'il ne passe pas trop près et qu'il ne devienne pas contaminé, malade, qu'il ne soit pas séparé de Dieu. Et Jésus, là, il leur dit, vous êtes comme des tombeaux, les gens entrent en contact avec vous et ils tombent malades. Sans le savoir, ils pensent faire bien, ils se disent « on va aller près de Dieu en allant avec ses scribes et ses pharisiens ». Et vous, quand ils viennent à vous, parce que vous comprenez rien à Dieu, parce que vous comprenez rien à la parole, vous les corrompez, vous. Ils sont contagieux. C'est pas seulement qu'ils ont mal compris, mais en plus, ils contaminent les autres. Pour nous, c'est... Il y a plein de choses à glaner dans ces choses. On aime bien se dire qu'on est mieux que les pharisiens, mais si nous sommes honnêtes, on sait qu'on est proche de tout ça. On peut venir ici à l'église, on peut étudier la Bible, on peut donner généreusement, on peut être rempli de fierté, on peut être de mauvais frères, de mauvais enfants, de mauvais amis, de mauvais employés. On peut jouer le rôle, on peut être comme les pharisiens et dire les mots qu'il faut et réagir comme il faut, être dans le timing et ne pas être sauvé, ne pas être comme Jésus le veut. En parenthèse ou à côté, on peut se dire aussi est-ce qu'on ne doit pas faire attention aussi à ne pas juger les gens simplement sur l'apparence, sur nos préjugés, notre manière de comprendre. Est-ce que si la personne qui enseigne le dimanche matin est en short et en tongs, ça va pas du tout, quoi. Vous êtes habitué, mais il y a peut-être des gens que ça choquerait. Ça veut pas dire qu'on doit rien faire pour Jésus et qu'on doit pas faire attention à vouloir bien le représenter, mais est-ce que nous aussi nous sommes trop sensibles à l'extérieur? Dieu, on ne peut pas le tromper, il voit le fond de nos cœurs. Là, je voudrais attirer aussi cette idée d'apparence. Juste une parenthèse qui me vient très à l'esprit avec tout ça, c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui avec notamment les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est les bons chrétiens sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est ceux qui likent les bonnes choses, les bonnes causes, qui postons les bons versets, qui faisons semblant d'être des super chrétiens sur les réseaux avec des images de versets, etc. Et puis quand il faut aider pratiquement, quand on doit vraiment donner, quand ça doit nous coûter quelque chose, alors là, les réseaux sociaux amènent une certaine distance par rapport à l'action. On a déjà parlé du fait qu'il faut qu'on obéisse à la parole, pas seulement qu'on l'entende. Pas seulement que le dimanche matin, on ait un sentiment de « waouh, c'est bien dit ». On s'en fout. Ça doit être quelque chose que l'on reçoit et que l'on fait. Et les réseaux sociaux, l'Internet, ça nous donne l'impression de faire. Ça nous donne l'impression de, parce qu'on a liké, parce qu'on a posté une photo, parce qu'on a un ami qui peut-être est proche de la situation ou qui agit, alors peut-être que j'ai le sentiment d'avoir participé. Il y a une branche de la sociologie qui se met à étudier ces domaines parce qu'il y a des phénomènes nouveaux dans notre monde. Si ça vous intéresse, là aussi, vous pouvez regarder, il y a des nouveaux termes, le slacktivisme, qui serait l'activisme paresseux, ou le bénévolat virtuel, ou aussi le fauteuil révolutionnaire. Et il y a sans doute des mouvements ou des causes que vous avez entendues. Il y avait en 2012, il y avait un truc, Kony 2012. Vous avez peut-être vu une vidéo sur un chef de guerre en Afrique que tout le monde voulait... En likant sur Facebook, on allait l'éradiquer et sauver tous les petits enfants là-bas. Le printemps arabe a causé aussi beaucoup de choses comme ça, bien que la situation ait beaucoup changé, en bien ou en mal, on ne sait pas. Plus récemment, il y a l'Ice Bucket Challenge là, avec la glace sur la tête. Là, vous avez tous vu les vidéos par rapport à ça. Où en sont ces causes, je ne sais pas. Revenons à ce verset dans 1 Jean 3. Si notre frère qui est dans le besoin à côté de nous et il a besoin de quelque chose et qu'on lui dit ouais, et qu'on fait rien, est-ce qu'on est comme Dieu le veut? Je veux pas balancer les réseaux sociaux en masse, hein, je suis pas anti. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que parfois on a le sentiment de participer à quelque chose par ces moyens-là sans que vraiment on fasse en fait quoi que ce soit. Finissons avec les scribes, les experts de la loi. Il leur adresse des reproches. Après le pharisien qui a regretté d'avoir invité Jésus à la maison, en position 2, il y a le scribe qui a regretté d'avoir dit « Eh, mais tu nous offenses aussi. » Il dit « Oui, et attends, j'en ai pour toi, t'inquiète. » Il dit « Oui, 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 il y en a pour toi aussi. Malheur à vous aussi. » Docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même du bout du doigt. Ils mettent des fardeaux sur les dos des gens. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aller lire les textes de loi? Je sais pas moi, vous voulez payer vos impôts et vous dites, tiens, dans telle ou telle situation, je suis pas sûr. Sur le site du gouvernement, il y a un truc où ils vont vous afficher le texte de loi. Vous avez déjà été voir? Est-ce que vous avez déjà compris une demi-phrase? Non. Récemment, je devais essayer de faire un truc pour des taxes avec Amazon aux États-Unis. J'ai ouvert la page. J'ai rien compris, quoi. C'est ce que faisaient ces maîtres de la loi. Ils prenaient la parole de Dieu, les commandements simples de Dieu, la bonne nouvelle simple de Dieu, et il la rendait incompréhensible. Il donnait plus de règles, plus de lois sur le dos des gens. Il leur disait, ah, vous faites ça, d'accord, mais il faudrait aussi que tu fasses ça, ça et ça. Sinon, t'es pécheur. Et les gars, il arrivait déjà pas à faire le premier truc. Il se dit, bon, bah, c'est bon, je laisse tomber, quoi. Il y avait ça, et en plus, ils trouvaient des moyens, comme ils étaient experts en la loi et que les textes que les gens simples ne comprenaient absolument pas, eux, ils s'écrivaient des petites entourloupes pour pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire. C'était tellement ridicule. Un exemple simple, alors il y en a, vous pouvez aller là aussi, vous faire plaisir et chercher pour vous rendre compte de la folie de ces scribes et de ces pharisiens. Ils disaient, il faut pas travailler le dimanche. Alors après, quand on dit, il faut pas travailler le dimanche, qu'est-ce que le travail? Ok, donc il faut pas porter quelque chose trop longtemps. Donc ils avaient des définitions. Si ça pèse, alors ils avaient, si ça pèse, alors je sais plus, c'était genre, si ça pèse un œuf et demi, c'est trop. Mais si ça pèse moins, c'est ok. Et après, si vous le portez pendant 5 minutes, ça va, mais un quart d'heure, ça va pas. Mais par contre, ils avaient plein d'entourloupes. Et après, eux, ils se faisaient des espèces de... Si on le portait dans la paume de la main, c'était péché, et on pouvait pas trop le faire, mais si on le portait sur le dos de la main, ça allait. Vraiment, hein, vous pouvez... Ces textes-là, vous pouvez aller les regarder, les lire, c'était de la folie. Et souvent, nous, en tant qu'hommes, on a envie d'utiliser la foi, les systèmes religieux, pour contrôler les gens, pour avoir de la force. Souvent, en tant qu'homme, on met plus de fardeau sur les gens. On connaît tous, j'espère, le passage où Jésus dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. » Ça, c'est le cœur de Jésus. Prions pour nous, que nous rendions la charge de nos frères et sœurs, des gens autour de nous, légère. Est-ce que vous avez déjà prié ça? Dieu, aide-moi à rendre la vie des gens autour de moi plus facile. Aide-moi à rendre leur charge plus légère. Prions ça. Ne tombons pas dans le piège des scribes à dire, ah oui, mais si tu viens pas à 10 heures pile, si tu viens 3 dimanches sur 4, ça va. Moins. Ne soyons pas des scribes. Les tombeaux des prophètes. Ça, c'est un passage vraiment lourd où on a l'impression qu'il les achève complètement. Ce passage-là fait froid dans le dos. Il va être redemandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Il en sera demandé compte à cette génération. Jésus, il n'était pas gentil, hein. Enfin, c'est en remarque, mais il était. il parle la vérité, même quand elle fait mal. Ici, en quelque sorte, il disait, vous honorez les prophètes de vos lèvres, vous construisez des tombeaux, vous dites, ah, Esaïe, ah, etc., etc., ah, Michée, ah, Amos, mais vous les écoutez même pas. Vous lisez le message qu'ils avaient, vous l'écoutez pas. Et à cause de ça, en fait, vous êtes en train d'honorer ceux qui les ont tués, parce que vous faites comme eux. Vous dites, oui, les prophètes, etc. Vous dites, oui, on est les fils d'Israël, les fils des prophètes, c'est nos ancêtres. Mais non, vous écoutez pas le message que Dieu voulait faire passer par leur bouche. Et à cause de ça, vous vous rendez coupable comme ceux qui les ont tués. Et il dit en plus, vous avez ceux qui restaient, mais en plus, on voit dans le Nouveau Testament que vous allez vous rendre coupable de la mort de Jean-Baptiste. Jésus lui-même dit que c'est le plus grand prophète de Jésus, Dieu lui-même incarné, puis des apôtres et des pères, enfin des premiers de l'Église. Vous allez en faire des martyrs. Et puis, ils enlèvent les clés aux gens. comme je disais tout à l'heure, il la rendait incompréhensible. Vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Si un bateau coule et qu'il y a des gens qui viennent sauver les gens sur le bateau, il y a un autre bateau qui arrive et qu'il y a le capitaine du bateau qui se met en travers de la porte et qui dit « Non, 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 c'est bon, le bateau il coule pas, restez avec moi. » De toute manière, pour ouvrir la porte, c'est compliqué, vous ne comprendriez pas. C'est un assassin. La presse n'aurait pas de fin d'achever le capitaine. C'est ce que faisaient les scribes. Dieu avait communiqué, voulait communiquer avec le peuple d'Israël, avec son peuple, voulait parler aux hommes. Et eux, ils prenaient le texte et ils disaient « Ah non, non, mais vous, dans la Bible... » Faut avoir un doctorat en théologie avant de pouvoir commencer à comprendre le grec et l'hébreu. Donc, ne lisez pas vos Bibles parce que de toute manière, vous comprendriez pas. Ils acceptaient même pas le message. Et pour nous, encore une fois, en regardant ces scribes, faisons attention de ne pas être fiers, mais d'être humbles et de prendre ça comme un avertissement pour nous aussi. Quand nous enseignons, si vous êtes amené à enseigner, comme moi je le suis ce matin, il y a une responsabilité dans Jacques 3. Si vous voulez regarder, il y a un avertissement. Attention à nous, on a une double responsabilité, celle de bien préparer, de bien connaître le texte, d'essayer de le travailler, de le digérer. Quand vous partagez avec des gens, quand vous êtes amené à partager la Bible avec des gens, vous devriez bien la connaître. Ça doit pas être, les études bibliques doivent pas être des échanges d'ignorance sans préparation, on a une responsabilité. Mais on doit aussi faire attention de ne pas donner l'impression que si on ne peut pas lire le grec et l'hébreu, etc., qu'on ne peut pas comprendre la Bible. On doit la rendre simple. Il y a quelque temps, j'étais quelque part, et je crois que c'était un mariage, et quelqu'un m'a dit, donc tu travailles avec une église, enfin tu es pasteur, et puis il me dit, mais tu as le droit de faire l'exégèse. T'es jeune quand même. T'as fait quoi comme étude? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les gens qui font de la théologie ou qui étudient l'hébreu et le grec. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. Évidemment. Mais faisons attention de communiquer simplement et clairement la Bible. Et pour ça... C'est très important de connaître la Bible. La Bible est le meilleur commentaire de la Bible. Je ne sais pas si vous remarquez, j'essaye, tant bien que mal, de toujours me référer à d'autres passages dans la Bible. C'est souvent comme ça qu'on arrive à comprendre les passages, de voir d'autres choses, de voir l'Ancien Testament, de voir ce que Paul dit, de voir d'autres passages dans les évangiles, de voir d'autres moments quand Christ parle pour comprendre. Dans Luc 24, on le verra dans un moment, Jésus lui-même, verset 44, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour et que le changement radical pour le pardon des péchés, serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous en êtes témoins. Jésus lui-même se réfère à la loi de Moïse, aux prophètes et aux psaumes, pour comprendre les Écritures, pour parler de lui-même. Nous avons un privilège, nous avons l'Esprit Saint, nous avons la Bible, nous avons la prière, nous avons l'Église. Si on a un cœur humble, si on a ce cœur qui est prêt à, qui est ouvert, qui voit, qui est sensible à ce que l'Esprit nous dit, on peut recevoir nous-mêmes, on peut comprendre la parole de Dieu. On doit s'entraider, s'encourager à faire ça. On doit écouter ce que disent ceux qui enseignent et vérifier qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Ça doit nous donner une liberté, ça doit nous donner une... Il ne faut pas que les gens viennent nous charger avec des fardeaux. Paul, avec l'église des Corinthiens, il disait à un moment dans 2 Corinthiens 11, il y avait des gens qui étaient venus, qui rajoutaient des règles, qui rajoutaient des choses. Il leur dit non, vous devez connaître la simplicité de la parole de Dieu, de l'évangile, et pas vous laisser charger, pas vous laisser berner. On doit connaître la parole de Dieu. Nous avons un privilège et on doit faire attention. C'est une chance que nous avons. Saisissons-la. Dans Luc 12, ce qu'on regardera une prochaine fois, peut-être avec moi, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais il continue à parler de cette idée qu'on doit être sensible, on ne doit pas être que dans les apparences. Il doit avoir une réalité. À quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. On a une vraie chance. Saisissons-la ensemble. Prions. Jésus, merci pour ce temps ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour tes paroles. Merci pour ta vie. Merci pour ton exemple. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci pour le fait que tu nous fais grâce, même quand nous échouons, Seigneur, tu nous regardes avec amour, tu nous as donné tellement de choses, Seigneur, tu nous as fait tellement de cadeaux. Seigneur, aide-nous à saisir ces choses, fais brûler dans nos cœurs l'envie de profiter de ces choses, Seigneur. De cet accès que nous avons, cette réalité que nous pouvons lire ta parole, recevoir de toi, entendre ta voix, vivre comme tu le souhaites, Seigneur. Sois glorifié ce matin, sois élevé parmi nous, que ces paroles restent dans nos cœurs et que nous les mettions en action, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.